Vous êtes avec SBS French.
Jeudi prochain, 29 avril, l'association Hand Up Congo organise un atelier de levée de fonds pour soutenir une communauté isolée et désavantagée en République démocratique du Congo, mais aussi pour promouvoir une réinsertion significative des réfugiés congolais en Australie. Et pour en parler, Lucy Hopgood-Brown, fondatrice et directrice de Hand Up Congo. Bien, Lucie, nous avons déjà eu parlé de votre association de nombreuses reprises sur nos antennes, mais c'est la toute première fois que nous vous accueillons directement sur nos antennes. Bien, Lucie, je vous demanderai tout d'abord de vous présenter à nos auditeurs.
Je m'appelle Lucie, j'ai grandi en République démocratique du Congo. Mes parents ont été parmi les fondateurs de l'université protestante au Congo. Alors, je fais maintenant des voyages réguliers au Congo avec des équipes de bénévoles qui aident à nos projets. Et nous sommes une toute petite ONG basée à Sydney qui travaille en RDC et aussi en Australie avec des réfugiés africains, les aidant à se réinstaller avec les villes rurales en Australie. Et en RDC, nous travaillons avec des partenaires de projets congolais sur des projets de développement communautaire durable et fournissons également une formation en médecine d'urgence aux médecins, aux infirmières et aux étudiants en médecine.
La dernière fois, quand vous avez eu sur les antennes de la radio SPS, vous organisiez un projet le long du fleuve Congo avec en délivrant des médicaments et des objets d'urgence sur le fleuve Congo. Mais cette fois-ci, vous avez un tout autre projet qui, celui-ci, cette fois-ci, est basé en Australie. Il s'agit d'un projet qui consiste à produire des objets d'art et des objets divers, même d'utilité quotidienne, mais en utilisant du textile, des matériaux, des textiles avec des motifs africains. Bien, parlez-nous de ce projet.
Parce que nous avons besoin des fonds pour aider nos projets. Et c'est pour cela que nous avons organisé cet événement. Tout le monde est invité à un atelier sur l'artisanat avec du tissu africain. Il aura lieu à Sydney le jeudi 29 avril de 9h30 à midi juste. Nous utiliserons du tissu africain pour couvrir les carnets faits à la main et aussi fabriquer de la ficelle de tissu.
Et mis à part la formation des gens qui vont apprendre dans ces ateliers à faire ça, est-ce que ces objets seront en vente? Comment ça va se passer?
Le coût pour l'atelier, c'est 60 dollars, oui, avec les recettes allant à une école de coupe et couture dans un village congolais très isolé. Alors, nous aidons les mères célibataires à prendre de nouvelles compétences pour aider à gagner leur vie pour la famille. Alors, avec cet atelier,
oui,
nous allons apprendre à tresser le tissu en ficelle colorée et aussi faire les petits carnets,
oui,
avec le tissu africain. Quand vous payez le coût de venir à cet atelier, vous allez prendre tout ce que vous faites 7 jours à la maison quand,
oui,
vous partez.
Oui.
Et puis aussi, nous aurons les autres choses de tissu africain à vendre si les gens qui viennent veulent bien acheter de plusieurs belles choses. On va vendre les choses aussi.
Donc, pour soutenir une cause. Et la dernière fois, donc, les villages que vous étiez le long du fleuve Congo, ça avait déjà un certain moment. Quelle est la situation aujourd'hui, surtout que depuis lors, on a eu cette calamité de COVID-19 qui n'a épargné personne dans le monde. Comment est-ce que,
oui,
nous vivons ces communautés?
C'est une communauté très isolée.
Oui.
Mon père est né dans ce village, oui, où se trouve l'école coupe et couture. Alors, c'est pour ça que moi, personnellement, je fais ce que je peux avec ce village,
oui,
parce que c'est le village natal de mon père. On peut seulement arriver à ce village dans une pirogue. C'est 300 kilomètres du capitale de province de l'Équateur.
Oui.
Et il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de rue. Il faut voyager seulement sur la fleuve et ça prend au moins 20 heures si vous pouvez utiliser un moteur. Mais pour la plupart, les Congolais qui habitent à l'Équateur n'ont pas l'argent pour louer les moteurs et ça prend plus qu'une semaine même.
Parce qu'il faut ramer à la main, donc.
Oui, c'est ça. Ou bien aller sur les pirogues publiques avec trop de monde. Souvent, les pirogues sont inondées et il y a beaucoup de gens
Y a
qui
beaucoup
sont
d'accidents.
morts. Oui, c'est une vie très, très, très difficile.
Donc justement, parce que la dernière fois, le grand projet pirogue pour le Congo, on se souvient. J'ai parlé à vos collègues au début de ce projet, il y a plusieurs années de cela, et j'ai pas eu l'opportunité de discuter encore pour en savoir plus sur la pirogue pour le Congo. Quelle a été la suite de ce projet?
Bon, notre petite ONG, nous travaillons au Congo il y a 15 ans.
Oui.
Alors, dans cette période, nous avons aidé avec les fonds pour acheter quelques pirogues et aussi quelques moteurs.
Oui.
Et ça aide les mamans pour aller prendre les choses qu'ils ont fabriquées à l'école coupe et couture. Ils peuvent aller par pirogue aux autres marchés qui sont sur la fleuve.
Oui.
Alors, ça donne beaucoup d'opportunités pour cela.
Oui.
Mais dans cette région, l'année passée, il n'y avait pas simplement COVID, mais il y avait aussi Ebola. Alors, c'était une période très, très, très dangereuse. Mais les Congolais sont vraiment merveilleux. Ils sachent comment accepter toutes les choses comme ça et comment les battre. Et ils sont vraiment formidables.
Ils sont très résilients. Et ceux qui
Vraiment.
sont ici en Australie, qui sont installés, il y a de plus en plus d'efforts de réinstaller des réfugiés dans des milieux ruraux. Comment s'effectue votre programme de réinsertion de ces réfugiés dans les milieux ruraux?
Nous trouvons que nous pouvons les aider parce que pour la plupart, les réfugiés qui arrivent d'Afrique sont les réfugiés qui viennent des régions rurales. Ils connaissent comment travailler avec les vaches et comment ils peuvent être un fermier. Mais le gouvernement, souvent, les met dans les grandes villes comme Sydney ou Melbourne. Et c'est vraiment une souffrance pour beaucoup de réfugiés parce qu'ils ne savent pas comment conduire les voitures, comment utiliser toutes les machines et comment trouver les ressources pour leurs aider. Alors, avec l'aide d'une autre ONG, GLAPED, on trouve les petites villes qui doivent chercher encore des gens parce que les jeunes partent pour les grandes villes et souvent les écoles, les hôpitaux, tout ça doit fermer parce qu'il n'y a pas assez de personnes dans les petites villes. Alors avec l'arrivée des réfugiés qui ont les grandes familles souvent, ça peut aider que les petites villes qui sont dans les régions rurales sont plus dynamiques.
Donc, ça peut les accueillir. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais été pas loin de là où vous êtes. C'était à Lismore, où il y avait une petite communauté d'Africains et surtout de Congolais qui étaient très, très bien installés. C'était même avant le projet GLAPED. Ils étaient très, très bien installés parce qu'ils avaient une structure d'accueil. Quand ils arrivaient des camps, on avait déjà préparé même une maison pour eux. Et les communautés locales s'occupaient de leur apprendre à conduire, à nager, à les réinsérer dans les écoles et les hôpitaux locaux. Est-ce que vous connaissez ces initiatives-là ou vous êtes en train de faire exactement la même chose?
Oui, c'est tout à fait la même chose ici à Tari. Nous avons des bénévoles, beaucoup de bénévoles qui sont tellement gentils et les bénévoles aident comme à conduire et aussi il y a une quinzaine d'enseignants qui aident avec apprendre anglais.
Oui.
Et il y a les autres, par exemple, aujourd'hui, il y avait quelques bénévoles qui sont allés avec moi et tous les enfants congolais, nous sommes allés à la plage pour la première fois. Et il y a beaucoup de travail parce que
Oui.
pour la plupart, sept groupes de Congolais ne parlent pas anglais.
Oui.
Alors, on commence vraiment au début. Il y a beaucoup à faire. Mais ce que nous avons trouvé, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup d'opportunités pour eux parce
Oui.
que les réfugiés sont prêts à prendre le travail que les Australiens ne veulent pas le faire.
Oui.
Comme travailler aux abattoirs, par exemple.
Oui.
Alors, mais les réfugiés sont courageux, ils acceptent n'importe quelle sorte de travail parce qu'ils veulent travailler, ils veulent dire merci au gouvernement australien pour les accueillir. Chaque jour, c'est intéressant pour tout le monde.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.